hommage au grand rabbin Ernest Gainsburger, 1876-1943. Grand rabbin de Genève, puis grand rabbin de Belgique, Ernest Gainsburger sera rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Figure singulière, Ernest Gainsburger est un homme d'action, prédicateur apprécié, historien, juriste, journaliste, conférencier. Il a laissé une abondante littérature et ses ouvrages d'histoire sur les Juifs du Sud-Ouest font toujours autorité. Homme engagé, résistant, il est mort à Auschwitz le 11 février 1943, victime de la barbarie nazie et du régime de Vichy. Un hommage lui a été rendu par la ville de Bayonne au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne le 7 mars 2018 à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française », manuscrit publié par les éditions Atlantica, précédé de l'hommage d'Anne Oukemanou intitulé « Ernest Gainsburger, un homme ardent et engagé ». Nous poursuivons aujourd'hui notre colloque hommage au grand rabbin Ernest Gainsburger qui a été rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Aujourd'hui, nous allons entendre l'intervention de Jean-Philippe Schreiber, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Ernest Gainsburger est le grand rabbinat de Belgique. Jean-Philippe Schreiber.
Bonjour à toutes et à tous. Il me revient de parler d'Ernest Gainsburger dans son rapport à la Belgique. Je le ferai de trois manières. D'abord en évoquant quelques éléments biographiques qui évoquent sa trajectoire belge, même si elle fut courte. Ensuite en parlant d'Ernest Gainsburger comme historien du judaïsme belge. Et enfin des particularités du système consistorial belge dans lequel Ernest Gainsburger s'intégra comme grand rabbin, puisque vous savez en effet qu'après avoir été grand rabbin de Genève de 1908 à 1923, Ernest Gainsburger fut élu grand rabbin de Belgique en 1924, après une élection où il obtint 259 des 292 voix exprimées, suffrage unanime ou presque, qui témoigne de l'intérêt de ses futurs ouailles pour leur nouveau chef spirituel. Il apparaît que la biographie d'Ernest Gainsburger présente un certain nombre de parallèles avec certains de ses prédécesseurs à la tête du grand rabbinat de Belgique. Je pense notamment à Élie Aristide Astruc, dont les liens avec Bayonne sont connus et qui fut 60 ans avant lui un autre grand rabbin de Belgique. Élie Aristide Astruc avait comme Ernest Gainsburger était un ancien élève de l'école rabbinique de France, où on le sait, Gainsburger fut élève de 1894 à 1900. Gainsburger fut comme Astruc un collaborateur de la revue des études juives, où il publia notamment, j'y reviendrai plus tard, une contribution à l'histoire des Juifs de Belgique en 1930. Il fut, durant son séjour genevois que j'évoquais en ouverture, le représentant de l'Alliance israélite universelle auprès de la Société des Nations et du Bureau international du travail. Et l'on sait qu'Élie Aristide Astruc fut un des cofondateurs de l'Alliance israélite universelle en 1860. Et puis, À l'instar d'Astruc, Ernest Gainsbourger fut contraint de démissionner de ses fonctions à la tête des communautés israéliennes de Belgique. Ce fut le cas en décembre 1929. Et puis, par la suite, il occupa le poste de Bayonne, au titre de grand rabbin des départements des Basses-Pyrénées et des Landes. Et cela aussi, cela évoque la figure d'Élie Aristide Astruc, qui fut lui-même grand rabbin de Bayonne quelques années après avoir abandonné le grand rabbinat de Belgique. Il est un autre prédécesseur d'Ernest Gainsbourger avec lequel il y a des parallèles à tracer, Armand Bloch, qui le précéda au grand rabbinat de Belgique, eut en effet, comme Ernest Gainsbourger, un rôle important durant la Première Guerre mondiale, du moins la portée morale de ce rôle fut particulièrement frappante. Je rappelle qu'Ernest Gainsbourger, qui était dégagé de toute obligation militaire, s'est néanmoins porté comme volontaire, comme aumônier israélite du 18e corps d'armée français durant la guerre 14-18, et cela l'amena une première fois en Belgique, puisqu'il assista les blessés et les mourants en Belgique, successivement à Charleroi, Nieuport, Steenstraat et au fameux Montkemel, théâtre d'une bataille terrible durant cette Première Guerre mondiale. L'on sait que Gainsbourger obtint entre autres décorations la Croix de guerre pour son courage face à l'ennemi et qu'il participa durant la Première Guerre à l'œuvre de secours aux prisonniers français et qu'il fonda également l'œuvre israélite de secours aux prisonniers de guerre. Armand Bloch, de son côté, se fit connaître par le sermon qu'il proféra en chaire de vérité à la synagogue de la rue de la Régence au cœur de la capitale belge. Le premier jour de la Pâque juive, le 18 avril 1916, l'écho de ce fameux sermon traversa les frontières et lui vaudra une lourde sanction en raison de son patriotisme ardent. Ce sermon était intitulé « Les idoles modernes » et il valut à Armand Bloch une condamnation à 6 mois de prison du chef de l'occupant allemand. Voilà deux trajectoires de deux grands rabbins de Belgique marqués profondément dans leur chair par la Première Guerre mondiale. Et si l'on évoque Ernest Gainsbourger, c'est aussi bien entendu pour parler de son petit opuscule « Albert Ier et le judaïsme belge » qu'il fit paraître à Paris en 1934 et qui évoque sa rencontre avec le souverain belge dont le mythe s'est précisément construit par le truchement de la Première Guerre. Dernier tragique, ô combien tragique, lien avec la Belgique, comme cela a été évoqué par d'autres dans leur notice relative à Ernest Gainsbourger, le grand rabbin Gainsbourger fut arrêté en mars 1942, apparemment après la découverte de documents anti-nazis à l'ambassade de France à Bruxelles. Il faut rappeler qu'il avait été proche en effet de l'ambassadeur Herbet, qu'il avait fréquenté durant son séjour bruxellois, et que Gainsbourger avait recherché l'appui de personnalités juives américaines dans sa lutte contre le régime allemand, ce dont témoignait sa correspondance avec l'ambassadeur sur laquelle la Gestapo mit la main. Et bien entendu, c'est à la suite de cet épisode qu'il fut interné au camp de Compiègne, puis déporté en mars 1943, et nous savons qu'il ne revint pas de déportation. Voilà quelques éléments biographiques qui signent son rapport à la Belgique. Il me revient maintenant de parler d'Ernest Gainsbourger comme historien du judaïsme. Et bien sûr, à ce sujet, on lui doit surtout les Juifs de Belgique au XVIIIe siècle, un ouvrage paru à Paris chez Lipschutz en 1932. Mais je voudrais peut-être au préalable, avant d'aborder ce que Ernest Gainsbourger a apporté comme contribution en tant qu'historien du judaïsme et des juifs en Belgique, je voudrais peut-être rappeler dans quelle lignée il s'inscrit, puisque l'ancrage dans l'histoire est une constante, je dirais, dans l'idéologie du judaïsme belge, si je puis parler en ces termes. Le premier grand rabbin de Belgique, un autre de ses prédécesseurs, Eliakim Karmeli, s'était en 1841 déjà fait l'historien de ces communautés juives, attestant de la présence des Juifs sur les territoires qui plus tard formeront la Belgique, et ce depuis le Moyen-Âge. Et cet ancrage dans l'histoire n'est pas sans rappeler ce qui se passe alors, au XIXe siècle, en Allemagne, où bien entendu les Juifs sont plus nombreux, et ils définissent leur identité en quelque sorte en détournant à leur profit le modèle dominant, créant une sorte de sous-culture originale qui repose sur une double fidélité à la fois à l'Allemagne et à l'universalisme juif. Et donc, si l'on fait le parallèle avec l'Allemagne et que l'on interroge cette histoire des Juifs qui va puiser dans un passé médiéval, en quelque sorte un ancrage territorial pour les Juifs, eh bien, on se rend compte finalement que l'objectif n'est pas d'attester nécessairement d'une présence continue des Juifs sur le territoire, et peu importe d'ailleurs que ceux qui forment les communautés juives en Belgique au XIXe siècle ne soient en aucun cas les héritiers des générations de familles juives qui se sont succédées sur ce territoire. Ce qui est important pour ces historiens du judaïsme belge, c'est de, en quelque sorte, de convoquer leur mémoire, de se l'approprier afin de territorialiser la présence juive en Belgique, de légitimer en quelque sorte sa participation à la nation moderne, à cette nation belge qui se crée et se développe au XIXe siècle. Et cette conception va se renforcer encore à la fin du XIXe siècle, suite à l'arrivée des Juifs d'Europe de l'Est, suite aussi à l'écho de l'affaire Dreyfus et bien sûr de l'antisémitisme régnant. Et c'est intéressant de voir ainsi que plusieurs des grands rabbins de Belgique se font les historiens du judaïsme belge, et ils le font par un recours à l'histoire et non à la théologie, à la fois pour territorialiser, comme je l'évoquais, cette présence juive sur le territoire et ancrer sa participation à la nation, et également, bien entendu, pour lutter contre le préjugé anti-juif. La revendication de la présence dans la cité passe par l'histoire et non par la théologie, et ce sont bien des rabbins qui l'affirment en empruntant à la science et au droit les arguments de leur défense du judaïsme. Ernest Gainsburger s'inscrira dans cette lignée. J'en viens maintenant à son travail d'historien, et à vrai dire, à ce sujet, il va à la fois puisé dans l'œuvre d'un autre rabbin qui le précède, Salomon Ullmann, rabbin d'Anvers, et en même temps apporter une contribution originale. Comme le rabbin Salomon Ullmann, Ernest Gainsburger remonte au Moyen-Âge pour affirmer la présence juive en Belgique. Salomon Ullmann l'avait fait dans un ouvrage qui s'intitule « L'histoire des Juifs en Belgique jusqu'au XVIIIe siècle ». S'appuyant sur Ullmann, Gainsburger mentionne l'établissement de Juifs dans plusieurs villes qui formeront la Belgique plus tard, Tournai, Huy et Liège, et ce, dès le haut Moyen-Âge. Il faut dire, à vrai dire, nous sommes aujourd'hui plus d'un siècle plus tard, les sources d'Ullmann, comme les sources de Gainsburger, là c'est moins d'un siècle, sont aux deux sujets à caution, à ce propos du moins, d'autant qu'il serait étonnant que si des Juifs avaient en effet habité ces territoires dès le Moyen-Âge, il serait étonnant qu'il n'ait pas eu à souffrir des persécutions commises lors de la première croisade. Or, l'on n'en trouve aucune trace. Aucun texte hébraïque, aucun texte latin non plus, ne mentionne les Pays-Bas à ce sujet. De sorte que l'on peut sans doute suivre l'opinion un peu plus fiable d'un autre historien du judaïsme, Jean Stengers, qui, en se fondant sur des sources qu'il utilise avec beaucoup de circonspection, quelques décennies plus tard, en 1950, va attester que les principautés qui formaient alors les Pays-Bas n'auraient compté aucun établissement juif important, ni même peut-être aucun juif, jusqu'au XIIIe siècle. En revanche, bien entendu, quelques marchands de passage, ou alors quelques juifs fuyant provisoirement leur communauté menacée passent par ces territoires, et il n'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait des marchands de passage dans la mesure où il y a la proximité de Cologne, où l'existence d'une communauté juive était attestée depuis le IVe siècle. Jean Stengers en 1950 confirmait là ce que le grand historien européen, quoique belge d'origine, Henri Pirenne avait déjà noté quant à la faible présence juive dans les Pays-Bas au Moyen-Âge, hormis quelques familles à Louvain et à Bruxelles, à Bruxelles, où elles périssent sur le bûcher en 1370. Après cet épisode, on ne trouve pratiquement plus de traces de juifs dans les Pays-Bas méridionaux jusqu'au XVIe siècle, quoiqu'il n'en ait jamais été banni officiellement. Et les juifs ne pénètrent à nouveau dans ces contrées qu'à la fin du XVe, à Bruges, puis à Anvers, au début du XVIe siècle. Il est en effet connu, et on le sait sans doute à Bayonne mieux qu'ailleurs, il est en effet connu que les juifs d'Espagne, puis plus tard du Portugal, chassés de la péninsule ibérique au lendemain de l'unification de la Castille et de l'Aragon et de la prise de Grenade en 1492, gagnèrent essentiellement le nord-est et le sud-est de l'Europe. Mais certains convertis s'établirent aussi sur les côtes de la mer du Nord et de l'Atlantique. Cette présence est attestée par les sévères édits de Charles Quint, publiés au milieu du siècle et qui visaient les nouveaux chrétiens. Et parmi ces nouveaux chrétiens figuraient beaucoup de juifs baptisés qui, sous le couvert de la foi chrétienne, pratiquaient en secret le culte de leurs ancêtres et subirent, sur les territoires belges, de nouvelles mesures de bannissement. Avant cela, deux ordonnances de Charles Quint de 1527 et 1536, favorables à l'établissement de nouveaux chrétiens, avaient entraîné une relative tolérance à leur endroit, d'autant qu'ils constituèrent, bien entendu, un apport non négligeable pour le commerce de la ville d'Anvers, c'est que la nation portugaise, comme l'on disait à l'époque, y jouissait d'un statut tout à fait privilégié. Je dirais, et Ernest Gainsbourger nous aide à tracer ce schéma, je dirais que trois périodes distinctes peuvent être observées concernant ces quelques décennies de présence juive à Anvers au XVIe siècle. D'abord celle d'une relative tolérance jusqu'en 1529, puis une période de surveillance de 1530 à 1540 marquée par un premier procès, une première accusation de pratiques judaïsantes, et enfin une période de répression de 1540 à 1550. Il est probable qu'au fil des ans, il devint en effet notoire qu'il se trouvait parmi les nouveaux venus, parmi ces nouveaux chrétiens, nombre de crypto-juifs. Et selon certains auteurs, c'est même la plupart des Portugais d'Anvers qui judaïsaient tout en vivant en apparence comme de fervents catholiques. Ils contribuaient au maintien de certaines églises, participaient aux œuvres paroissiales, participaient à l'effort caritatif, certes, mais en sous-main, ils finançaient l'édition et la diffusion des ouvrages de Luther, car ils avaient perçu combien le protestantisme pouvait affaiblir le catholicisme qui les persécutait. Un épisode est évocateur de cela à la suite d'une dénonciation. Diogo Mendes, un commerçant portugais très influent, fut arrêté en compagnie d'autres marchands sous le reproche de judaïser, d'être en relation avec la Turquie, notamment avec les juifs de Salonique, et d'avoir monopolisé le commerce des épices. Et tant l'intervention des négociants anversois et celle le plus indirecte du roi du Portugal, qui était en réalité débiteur de Mendes, permirent à Diogo Mendes d'être libéré contre le versement d'une amende. C'est dire si les intérêts financiers en jeu étaient puissants et combien la prospérité d'Anvers en dépendait. La famille Mendes dominait en effet une grande partie du commerce du poivre et des autres épices en Europe du Nord. Quelque temps plus tard, les veuves de Diogo Mendes et de Francisco Mendes, dans un contexte où l'empereur Charles Quint avait chargé sa sœur Marie de Hongrie de poursuivre et châtier les judaïsants, quittèrent secrètement Anvers en compagnie d'un groupe de marchands en 1543. Elles gagnèrent Venise, puis Salonique, leurs biens étant confisqués. Et c'est cet épisode qu'aborde Ernest Gainsbourger dans son article « Marie de Hongrie, Charles Quint, les veuves Mendes » et les néo-chrétiens, un article paru dans la Revue des études juives en 1230, comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour revenir au contexte historique, bien que l'empereur retira par une ordonnance de 1540 le privilège par lequel il avait accordé en 1527 et 1536 le droit de séjour des nouveaux chrétiens aux Pays-Bas, eh bien de nombreux maranes, comme on les appelait, ces crypto-juifs donc, continuèrent à séjourner sur les rives de l'Escaut. Et ce n'est que sous le règne de Philippe II, le successeur de Charles Quint, et à la suite de la révolution des Pays-Bas, qui signa la séparation entre les Pays-Bas méridionaux et les Pays-Bas septentrionaux, devenus les Provinces-Unies plus tard, et bien c'est à la suite donc de cette révolution des Pays-Bas et de la chute d'Anvers que la situation des crypto-juifs, des marins, devint intenable et qu'ils s'expatrièrent définitivement. Ils s'expatrièrent vers Amsterdam surtout, ils vont participer plus tard à l'essor économique des Provinces-Unies après la proclamation de la République, mais ils gagnèrent également Bordeaux, Hambourg et Londres. Quelque temps plus tard, en 1617, les archiducs Albert et Isabelle vont à nouveau prendre la décision de refuser l'accès des Pays-Bas méridionaux, toujours sous tutelle espagnole, à un juif, cette fois à un juif d'Amsterdam. Mais malgré cette disposition, malgré ce refus, les juifs seront cependant de plus en plus nombreux à visiter ces territoires, à enfreindre cette interdiction. Et leur nombre va encore augmenter après la paix de Westphalie qui met fin à la guerre de 30 ans, comme vous le savez, au milieu du siècle. Et à partir donc, surtout de ce milieu du XVIIe siècle, certains commerçants maranes vont et viennent désormais dans ces régions, vont tenter de s'y établir de manière permanente. Et il faut dire que la religion juive y est pratiquée de moins en moins secrètement. En effet, hormis les entraves faites à leur déplacement par l'obligation d'acquitter certaines taxes qui grevaient leur passage, il est vraisemblable que peu d'humiliations légales vinrent encore affecter ces juifs, particulièrement au XVIIIe siècle, sous le régime autrichien qui avait succédé au régime espagnol. Les juifs seront désormais tolérés dans les Pays-Bas méridionaux, et il semble bien qu'ils trouvaient un intérêt certain à fréquenter ces régions, malgré, comme l'a montré Ernest Gainsburger dans Les Juifs de Belgique au XVIIIe siècle, malgré des capitations variables suivant les principautés, et qui, dans certains cas, les assimilaient à des animaux ou à de la marchandise. Mais il faut dire que, malgré donc ces taxes et ces capitations, ils trouvaient un intérêt manifeste à fréquenter ces régions, parce que, en plus de leur prospérité économique et de la situation du port d'Anvers, les Pays-Bas méridionaux constituaient une terre de passage entre des contrées fort peuplées par les Juifs. Au nord, les Provinces-Unies, à l'est, la Rhénanie, le Palatinat, et au sud-est, la Lorraine et principalement la communauté de Metz. En 1756, le gouverneur Charles de Lorraine, donc l'homme du pouvoir viennois à Bruxelles, le gouverneur Charles de Lorraine prescrivit aux magistrats des villes de rédiger une ordonnance de police afin que les Juifs désirant se fixer dans les Pays-Bas méridionaux acquittent une capitation extraordinaire d'un montant de 300 florins annuels, une somme très importante donc pour l'époque, comparable à la contribution de tolérance, la fameuse Toleranzgeld, en vigueur à Vienne. Il est évident qu'il s'agissait là d'une exclusion déguisée, car rares étaient ceux qui auraient pu s'acquitter d'une telle somme. Mais paradoxalement, à l'inverse des positions juridiques développées antérieurement, c'était également là une manière de reconnaître la légalité de leur séjour sur le territoire des Pays-Bas, plus encore qu'une simple tolérance. Je dirais, et je suis là l'opinion d'Ernest Gainsburger, que l'intention était de se débarrasser des Juifs sans ressources, tout en conservant et en attirant même des commerçants aisés de la nation juive. On disait des commerçants utiles à l'époque, c'est le vocabulaire de l'époque, hein, l'utilité des Juifs qu'on retrouve beaucoup dans la littérature concernant les Juifs au XVIIIe siècle. Donc il s'agit d'attirer les commerçants utiles afin de jouir de l'intérêt économique que ceux-ci pourraient présenter. L'intégration du commerçant dans la vie économique de la cité nécessitait l'accès à la bourgeoisie, au statut de bourgeois, et cette qualité de bourgeois permettait en effet de pratiquer sans entrave une profession ou un négoce. Et Ernest Gainsburger, dans cet ouvrage donc que j'évoque, a décliné les quelques cas d'accès des Juifs à la bourgeoisie des villes, en plus d'avoir dressé les listes des Juifs recensés dans les principales villes des Pays-Bas méridionaux au XVIIIe siècle. Il y a autre chose que je voudrais signaler à propos de l'œuvre de Gainsburger comme historien des Juifs de Belgique, c'est qu'il a notamment mis au jour un mémoire qui date de 1788 du chancelier et conseiller du Conseil des Gueldres, un mémoire qui, et c'est là tout son intérêt, qui tout en faisant valoir des arguments proches de ceux défendu à la même époque en France par Mirabeau ou par l'abbé Grégoire, demande la perpétuation de l'édit d'expulsion contre les Juifs. Et Gainsburger montre par l'analyse détaillée qu'il opère de l'attitude du gouvernement des Pays-Bas autrichiens que sa politique économique visait à se débarrasser donc des Juifs sans ressources tout en conservant les Juifs aisés, je l'évoquais il y a quelques instants, afin de jouir de l'intérêt économique que ceux-ci pourraient présenter. Et tout l'intérêt est là dans cette position uniquement utilitariste qui ne repose ni sur des arguments politiques, ni sur un discours humaniste. C'est là la marque de la tolérance joséphiste, du nom de l'empereur Joseph II, une tolérance très limitée, toujours faite de règles fort discriminatoires et qui contraste avec ce que sera très peu de temps plus tard l'émancipation révolutionnaire française, laquelle, vous le savez, reposera sur des principes abstraits, fondements de l'égalité des droits. Comme les métiers des villes des Pays-Bas méridionaux refusaient d'admettre les Juifs en leur sein, eh bien, il ne leur restait qu'à exercer le commerce en gros, un commerce affranchi de toute corporation, ce qui nécessitait d'importants moyens financiers, ou alors le recours au trafic clandestin, qui ne pouvait donc que renforcer les griefs que l'on adressait déjà aux Juifs, et l'on a vu il y a quelques instants que certains textes le faisaient. Hervé Asquin, historien des Pays-Bas autrichiens, a écrit de l'empereur Joseph II que sa politique religieuse se trouvait, je le cite, « à la confluence d'une tolérance d'inspiration mercantile, d'un humanisme chrétien misant sur une religion plus intérieure et moins dogmatique, et d'un droit naturel qui revendiquait pour l'individu les libertés d'opinion et d'expression. » Et le fameux mémoire sur les Juifs du prince de Ligne, autre personnage qui a marqué l'histoire des territoires qui formeront plus tard la Belgique, eh bien le mémoire sur les Juifs du prince de Ligne partage à peu près ces conceptions en manifestant tout à la fois envers les Juifs les préventions de l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de Joseph II, et la tolérance de son fils Joseph II. Ligne était lui aussi, comme l'empereur, un réformateur des Juifs. Il voulait une réforme typiquement habsbourgeoise, une réforme où l'on trie entre les Juifs riches et les Juifs pauvres, entre les Juifs utiles et ceux qui ne sont guère, une réforme utilitariste, physiocratique, qui protège non les droits des Juifs en tant qu'individus, mais qui protège les Juifs pour la fonction économique qu'ils assurent en vue de leur exploitation. Et cet épisode et ses conceptions, Ernest Gainsburger a contribué dès le premier tiers du XXe siècle en tant qu'historien à les exposer. Troisième et dernier volet de mon intervention, je voudrais parler du judaïsme belge, c'est-à-dire le cadre dans lequel Ernest Gainsburger va officier durant quelques années. Et pour cela, il me faut parler de ce système qui est mis en place au XIXe siècle en Belgique comme en France. Et comme il y a un israélitisme français, il y a très clairement un israélitisme belge. En effet, les institutions créées au sein du judaïsme belge à partir de l'indépendance de la Belgique, à partir de 1830-1831, ont assuré la reconnaissance du statut des Juifs au sein de la société belge. Et de même, ces institutions communautaires ont façonné une politique d'intégration sociale en se fondant sur les principes hérités des Lumières juives, sur les décisions du grand Sanhédrin de Napoléon, et j'y insisterai, sur les convictions libérales et sociales de leurs dirigeants. Comme dans d'autres pays d'émancipation, la dynamique induite par le mode de vie communautaire juif en Belgique comportait une complexité interne. Le réseau juif d'intégration, autrement dit la communauté, servit à la fois de cadre de socialisation en son sein propre et de cadre de socialisation à la société d'accueil. Mais la communauté conservait aussi des caractéristiques relevant de la tradition, qu'elle n'évacua pas toutes, de même qu'un système de contrôle social tel qu'il conduisit à la fois, paradoxalement, à freiner le processus d'intégration. Et donc, en quelque sorte, la politique communautaire favorisa simultanément des stratégies de socialisation et malgré l'idéologie très libérale qui la sous-tendait, des stratégies de repli ou de conservatisme. La synagogue elle-même manifestait l'interrelation de ces deux vocations, à la fois traditionnelle et moderne. En même temps que la synagogue constituait le lieu privilégié de sociabilité juive qu'elle avait toujours été, elle jouait un rôle central par la fonction que lui assignait la politique communautaire, celle d'être le ressort de l'adaptation à une esthétique nouvelle, à une idéologie résolument moderne du judaïsme, et puis enfin au patriotisme qui jouait un rôle majeur dans la doctrine consistoriale, je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est une des raisons pour lesquelles le consistoire lutta, par exemple, contre l'érection de petits oratoires qui eussent pu échapper à sa stratégie et qu'elle privilégia le rôle centralisateur des nouvelles synagogues monumentales, telles celles de la rue de la Régence à Bruxelles où Ernest Gainsburger officia. Dans ce rapport dialectique entre ouverture et repli, la politique communautaire délimita nettement quel devait être le cadre de son autonomie, rejetant notamment ce en quoi elle ne se reconnaissait pas, comme par exemple le mariage mixte ou mariage exogamique. Cet israélitisme était en Belgique, comme en France à vrai dire, une religion patriotique et bourgeoise. Il exaltait les valeurs de la bourgeoisie, il en promouvait le modèle, jusqu'à la synagogue qui, de lieu privé, était devenu un lieu public où certaines célébrations telles l'initiation religieuse, le mariage ou le tédéum avaient un caractère plus patriotique et bourgeois qu'un caractère religieux. Le modèle qui était donc promu par la communauté instituée était le modèle d'une bourgeoisie, certes, mais d'une bourgeoisie juive. Il combinait comme valeur à promouvoir la réussite sociale, l'adhésion aux vertus morales et patriotiques, l'éthique de la responsabilité, soit en réalité un type idéal de juif nouveau, produit de la rencontre entre l'éthique mosaïque et la modernité, et c'est bien cela que les élites communautaires incarnaient. Et ce qui est intéressant, c'est que alors qu'en vertu des règles qu'elle s'était elle-même imposées, la communauté instituée limitait théoriquement ses attributions au seul domaine religieux, eh bien en réalité, elle étendit largement ce rôle à la sphère sociale. C'était là une manière courante d'assumer de façon interne l'ensemble des fonctions, notamment caritatives, que l'on répugnait à abandonner au monde extérieur. La communauté instituée, le système consistorial, le firent pour des raisons de protection religieuse. Elles eussent pu, le cas échéant, donner lieu à des tentatives de prosélytisme à l'égard des Juifs, mais elles le firent aussi pour éluder des reproches d'abandon qui, en retour, renforçaient l'image extérieure de cohésion communautaire. Il s'agissait donc de ne pas abandonner les masses juives paupérisées à elles-mêmes, mais de les prendre en charge, d'assurer leur émancipation et d'assurer leur régénération, comme l'on disait, notamment par le travail et l'apprentissage. L'autonomie que préservait la communauté dans ce domaine répondait autant donc aux traditions séculaires, d'assistance qui prévalait dans la société juive qu'à la volonté d'exercer un contrôle social sur l'ensemble de la population juive et partant de ne pas faire dépendre l'indigence juive de la charité publique. Le consistoire et la communauté israélite de Bruxelles, la principale du pays jusqu'au tournant du siècle, furent dirigés et inspirés par des juifs originaires d'Allemagne. Des juifs jeunes pour la plupart, marqués par l'esprit de la Haskalah, les Lumières juives, des jeunes juifs d'origine allemande qui ont pris au lendemain de l'indépendance belge de 1830 les commandes de plusieurs communautés, notamment celle de Bruxelles, des communautés qu'elles ont marquées de l'empreinte de leur adhésion même enthousiaste à la modernité. Et ces jeunes hommes libéraux et modernes ont créé de ce fait, dès les débuts de la Belgique indépendante, la communauté juive qui, institutionnellement parlant, fut, à vrai dire, la plus libérale d'Europe. Ces hommes ont fait clairement le choix de l'idéologie de la régénération, terme que j'évoquais il y a quelques instants et qui puise bien sûr dans le lexique révolutionnaire. Ils ont bâti en Belgique, où rien n'y faisait obstacle, ce qui n'avait pu structurellement être possible en Allemagne, d'où ils venaient, que ce soit en raison des obstructions internes aux communautés juives allemandes ou en raison des interdits institutionnels qui frappaient les juifs en Allemagne. Cette régénération qu'ils promouvaient et qu'ils ont instituée, cette régénération ne fut pas qu'un moment politique et social. Elle fut véritablement une idéologie qui courut sur tout le siècle, tout le XIXe siècle. Elle servit à fabriquer un homme nouveau, des juifs nouveaux, à transformer en quelque sorte les mentalités. Et tout y concourut. Le modèle philanthropique mis en œuvre, la politique sociale, les institutions juives, la conception que l'on eut de l'école juive, et bien entendu aussi la morale prêchée à la synagogue et Ernest Gainsbourger, dans la première partie du XXe siècle, en fut en quelque sorte, si j'ose dire, un avatar ou un surgent. Le résultat logique du discours sur la régénération des Juifs fut dès lors la mise en œuvre d'une politique sociale très volontariste, destinée à contrôler les voies de l'intégration économique et sociale des Juifs, et fondée sur la projection d'un modèle idéal de Juifs laborieux, honnêtes, insoupçonnables, instruits et bien sûr religieux du moins dans la perspective de la religion que concevaient ces dirigeants communautaires modernistes. Cette action très volontariste fut légitimée par le discours éthique répercuté par le judaïsme libéral fondé sur principalement les valeurs morales du judaïsme. Il y eut donc en quelque sorte interpénétration fondamentale entre l'action sociale des dirigeants communautaires et la morale religieuse professée à la synagogue par les grands rabbins, et ce fut le cas d'Ernest Gainsbourger quelques décennies plus tard. Cette politique sociale transforma aussi le schéma traditionnel de la bienfaisance juive en l'adaptant au modèle qui était celui de ce libéralisme du XIXe siècle, à savoir un modèle philanthropique. J'ajouterais à cela que le judaïsme au XIXe siècle a en Belgique plus suscité de curiosité que de peur, malgré la perpétuation de stéréotypes bien sûr, et peut-être aussi une antipathie réelle dans le chef de certaines administrations chargées des questions du culte à tous les niveaux de pouvoir. Mais dans le même temps, il faut dire que la population juive en Belgique n'a jamais excédé 1% de la population du pays et n'a dès lors jamais suscité de réelles craintes auprès de ceux notamment qui évaluaient sa capacité d'insertion dans la cité. Le consistoire, par son libéralisme, a plutôt d'une certaine façon correspondu à l'attente de l'autorité civile, de sorte que c'est précisément sous sa pression que les communautés orthodoxes nées du courant migratoire venu d'Europe de l'Est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe ont eu du mal à être reconnu par les pouvoirs publics. Le libéralisme religieux que le consistoire professait eût pu, on peut le concevoir, conduire à la réduction du judaïsme à une forme de spiritualisme un peu délité. Or, il revendiqua la perpétuation d'une conception communautaire du judaïsme et l'attachement à une grande partie de ses traditions. Ainsi, tout autant que le regard de la société belge perpétuait une vision des juifs qui allait, bien entendu, au-delà de sa simple altérité religieuse, on ne pouvait concevoir que les juifs se réduisent à leur confession, et bien de la même façon, le consistoire, malgré l'idéologie très libérale et la conception confessionnelle du judaïsme qu'il professait, et bien malgré cela, le consistoire persistait à entretenir une sorte de statut de minorité qu'il espérait en quelque sorte voir reconnu dans le paysage philosophique de la société belge. Je voudrais en proposer une illustration toute symbolique en évoquant la grande synagogue de Bruxelles, où Gainsbourger a donc passé le plus clair de son temps durant son séjour belge et où il a officié donc entre 1924 et 1929. Cette synagogue, par son architecture romano-byzantine et son agencement spatial moderne. Ça fait bien sûr songer à la synagogue de la rue de la Victoire à Paris ou à la grande synagogue de Lyon qui furent construites à la même époque. Eh bien, il y a là une manière d'illustrer symboliquement par l'esthétique synagogale, à la fois celle de la façade et à la fois celle de l'agencement spatial intérieur, cette espèce de propos paradoxal ou d'idéologie paradoxale du consistoire, cette espèce de tension entre modernité et tradition, et ce double ancrage, à la fois cet ancrage dans l'Occident, c'est l'esthétique romane de la synagogue, et puis ce rapport également à l'Orient, ce regard porté vers l'Orient par les éléments byzantins dans la façade de la synagogue et par la charge orientale ou byzantine forte dans l'agencement spatial intérieur de cette synagogue. Et il en résulte donc une sorte de paradoxe tout à fait assumé, mais qui conduisit quelquefois aussi au malaise à la fois de nombreux juifs libéraux qui voyaient là un trop grand attachement à la tradition, et en même temps, sans doute aussi un malaise dans le chef de juifs plus traditionnalistes qui concevait mal cette modernité et puis cette esthétique qui était bien entendu très proche l'esthétique chrétienne. J'évoquais le fait que l'idéologie consistoriale en Belgique tendait à faire reconnaître le judaïsme belge comme élément constitutif de la société belge, comme minorité reconnue parmi d'autres courants philosophiques. Et c'est vrai que le contexte de la société belge du XIXe siècle a certainement favorisé le développement d'une structure communautaire juive comme pilier constitutif de la coexistence nationale. La société belge a sans doute, même sans aucun doute, moins tendu à l'uniformisation que la société française, par exemple. Les communautés juives connaissaient des formes d'organisation assez proches de celles des communautés belges. Mais il est vrai aussi qu'il y a des différences culturelles marquées entre la France et la Belgique. En Belgique, de plus grandes tensions entre piliers philosophiques de la constitutif de la société sans doute aussi de ce fait-là, sans doute également une meilleure acceptation d'une minorité, comme les juifs, ce fut le cas des protestants aussi, qui tendent à trouver une place dans une majorité qui est traversée par une tension entre notamment cléricalisme et anticléricalisme. Mais je dirais que, ainsi, contrairement à la France, la volonté d'intégration des Juifs a rarement dû être illustrée en Belgique par la justification de leur capacité d'adaptation à la nation, ce qui a beaucoup plus été le cas en France. Les clivages que j'évoquais entre catholiques et libéraux, entre cléricaux et anticléricaux en Belgique, qui se sont de plus en plus accentués dans la seconde partie du XIXe siècle, ont donc en quelque sorte laissé la place à l'affirmation d'une différence, en l'occurrence celle d'une minorité religieuse, même très marginale que fut le judaïsme. Et cela a sans doute contribué à freiner la marche vers l'assimilation complète d'une frange de la population juive. Cependant, en raison du contexte politique et religieux de la Belgique, tout autant qu'en raison de leur volonté de préserver le judaïsme à travers son nécessaire renouvellement, et malgré leur politique clairement affirmée d'intégration, les dirigeants communautaires ont eu ce souci d'afficher la présence du judaïsme dans la cité. Je dirais que si le soubassement idéologique de l'égalité accordée aux Juifs en tant que citoyens était le même qu'en France ou dans d'autres pays, l'acquisition de l'égalité ne signifiait pas seulement aux yeux des dirigeants communautaires l'abrogation des discriminations civiles, mais aussi le droit pour les Juifs d'affirmer leur identité au même titre que les autres groupes constitutifs de la nation. Ce qui a conduit, durant un temps du moins, à ce que soit mise sur pied une école séparée, à ce que l'on érige cette synagogue monumentale, démesurée par rapport à la place des Juifs dans l'espace urbain, mais qui jouait en quelque sorte sur l'ambivalence entre la fonction d'illustrer la différence des Juifs dans la cité, tout en s'adaptant parfaitement à l'esthétique de cette cité, pourtant étrangère au judaïsme. Je dirais encore que le consistoire eut comme objectif constant d'éviter que les communautés pour les communautés, pardon, qu'elles butent dans leur rapport avec l'extérieur, et notamment avec la loi civile, sur une contradiction quelconque. Et cela tant que c'était possible, ce qui ne se fit pas toujours sans mal, comme à propos des cimetières, lorsque l'on fit obligation aux communautés juives de supprimer leurs cimetières confessionnels. Je ne vais pas entrer dans le détail de cet épisode, mais qui a été douloureux pour les communautés juives, dans la mesure où cette obligation religieuse d'avoir un cimetière séparé dans la mesure où elle ne pouvait plus être respectée, a certainement été une manière douloureuse de devoir abandonner ce qui était pourtant une prérogative tout à fait essentielle au regard des obligations de la loi juive. J'en terminerai en passant cette fois au XXe siècle. J'ai tenté de tracer le contexte et les ressorts idéologiques de ce judaïsme consistorial, de cet israélitisme belge qu'Ernest Gainsbourger va donc gagner à partir de 1924, puisqu'il va donc exercer pendant 5 années le grand rabbinat de Belgique. Mais il le fera dans un contexte où, bien sûr, cette idéologie consistoriale se perpétue, mais doit, depuis le début du XXe siècle, elle doit composer à la fois avec le développement et même le foisonnement d'une vie associative juive qui va progressivement réduire l'impact du judaïsme consistorial, et en même temps composer avec d'autres idéologies, notamment l'idéologie sioniste qui se développe et qui va là aussi offrir des alternatives à l'idéologie professée par le consistoire. Je dirais d'une part que, avec l'émergence donc au début du XXe siècle d'une vie juive associative indépendante du réseau religieux, et cette vie associative juive non religieuse est d'ailleurs vite devenue prépondérante, le contrôle social exercé par le système consistorial du XIXe siècle ne s'est de toute évidence plus exercé de la même manière. Et l'évolution sociopolitique du judaïsme belge a globalement été scandée par l'érosion progressive du champ religieux au profit du champ sociopolitique, ce qui s'est vérifié dans l'entre-deux-guerres. Les conséquences et le contexte de l'affaire Dreyfus, qui a bien sûr eu des répercussions en Belgique, ont contribué à donner naissance et à développer le mouvement sioniste dans la communauté juive de Belgique, et ce, très précocement, dès le début du XXe siècle, et cela a permis d'offrir désormais définitivement même une alternative aux structures religieuses qui seules occupaient le terrain précédemment. Et c'est donc dans ce contexte que l'on peut situer l'un des principaux faits d'armes, si j'ose dire, d'Ernest Gainsbourger en Belgique, et qui se situe en 1926. En 1926, en effet, un projet de loi est en discussion au Sénat, qui vise à modifier les dispositions en matière de méthode d'abattage des animaux de boucherie et à imposer l'usage en la matière du revolver. Ce n'est pas sans évoquer, même si le contexte est différent et même si les accents, les modalités sont différentes, un enjeu très actuel. Ce projet de loi sur l'abattage des animaux de boucherie est donc en discussion au Sénat, et bien entendu le consistoire s'en émeut et veut veiller à ce que ne soit pas adoptée une mesure qui heurterait les pratiques juives en matière d'abattage rituel des animaux. On sait que l'interdiction de l'abattage rituel en Suisse en 1893 avait déclenché de vives réactions dans le chef des communautés juives. Le consistoire visera à une concertation qui sera menée avec le rapporteur de la loi, et Ernest Gainsbourger va jouer en la matière un rôle capital, et cela va permettre de pousser le législateur à reconnaître un cadre d'exception à la loi, ce que viendra conforter l'adoption d'un arrêté royal qui accordera le droit au grand rabbin de nommer un chorette, un sacrificateur rituel. Et donc cette disposition dans l'exercice de la loi permettra donc de faire exception pour le consistoire. À l'époque, il y avait guerre de musulmans en Belgique, donc la question se posait essentiellement pour les juifs. Et le grand rabbin Gainsbourger jouera un rôle important de ce point de vue. Il en fera d'ailleurs la synthèse. Il fera la synthèse de cette expérience dans un ouvrage qu'il a fait paraître en 1932 et qui s'intitule « La méthode juive d'abattage au point de vue religieux, scientifique et historique ». C'est dire donc que Ernest Gainsbourger a été grand rabbin de Belgique à la fois dans un contexte nouveau, celui d'une vie associative juive foisonnante où l'ancrage religieux devient peut-être plus marginal ou du moins moins important par rapport à un engagement identitaire d'un ordre différent dans le chef des nouveaux venus juifs, ces immigrants d'Europe de l'Est qui ont gagné la Belgique à partir de la fin du XIXe siècle, et que le grand rabbinat d'Ernest Gainsbourger se situe aussi dans un contexte religieux tout différent, qui n'est pas un contexte d'idéalisme où l'on construit, comme au XIXe siècle, ce libéralisme religieux très moderniste et qui vise à trouver une sorte de synthèse entre tradition et modernité. Non, il le fait dans un contexte où, cela étant acquis, mais en train d'être minorisé au sein de la société juive de Belgique, eh bien, il doit se battre sur divers fronts, et notamment pour protéger une prérogative religieuse indispensable pour les juifs, à savoir la perpétuation de l'abattage rituel des animaux, essentiel à la perpétuation de leurs obligations religieuses. Et je dirais donc, pour terminer, que le consistoire qui, au XIXe siècle, contrôlait l'essentiel de la vie juive en Belgique, a été contraint, dès 1900, de s'adapter à la fois au pluralisme religieux avec l'émergence des communautés orthodoxes et à l'émergence d'autres dimensions de l'appartenance juive, appartenance sociale, appartenance politique, appartenance culturelle. C'est dans ce contexte donc qu'Ernest Gainsbourger est devenu grand rabbin de Belgique et qu'il a mené son grand rabbinat durant 5 années jusqu'en 1929, dans un contexte qui avait considérablement évolué, mais dans un modèle idéologique qu'en quelque sorte, en bon élève du séminaire rabbinique de France, un modèle qu'il partageait, dont il partageait l'idéologie et dont il se fera le chantre et le défenseur entre 1924 et 1929. Je vous remercie.
Ernest Gainsbourger et le grand rabbinat de Belgique. Vous venez d'entendre l'intervention de Jean-Philippe Schreiber, professeur à l'Université libre de Bruxelles. La semaine prochaine, dans la 4e et dernière partie de cet hommage au grand rabbin Ernest Gainsbourger, vous entendrez les interventions de Philippe Gainsbourger, fils du grand rabbin, président d'honneur du temple Buffo. Il parlera des souvenirs des années 1930-1940 à Bayonne, puis ce sera la conclusion d'Anne Oukemanou autour de l'ouvrage d'Ernest Gainsbourger, Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française. À la semaine prochaine sur notre antenne, même jour, même heure. Hommage au grand rabbin Ernest Gainsbourger, 1876-1943. Grand rabbin de Genève, puis grand rabbin de Belgique, Ernest Gainsbourger sera rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Figure singulière, Ernest Gainsbourger est un homme d'action, prédicateur apprécié, historien, juriste, journaliste, conférencier. Il a laissé une abondante littérature et ses ouvrages d'histoire sur les Juifs du Sud-Ouest font toujours autorité. Homme engagé, résistant, il est mort à Auschwitz le 11 février 1943, victime de la barbarie nazie et du régime de Vichy. Un hommage lui a été rendu par la ville de Bayonne au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne le 7 mars 2018 à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française », manuscrit publié par les éditions Atlantica, précédé de l'hommage d'Anne Oukemanou intitulé « Ernest Gainsbourger, un homme ardent et engagé ».